We're excited to address the
Nous sommes ravis de pouvoir aborder le sujet du jour, qui est trouver la réponse à nos problèmes et à nos défis en vivant l'Évangile de Jésus-Christ. Par le passé, les présidents de l'Église nous ont donné le grand espoir de pouvoir trouver les réponses à ces difficultés et à ces défis dans l'Évangile. Voici deux citations auxquelles nous pourrions réfléchir aujourd'hui. La première est tirée d'un discours du président Kimball donné lors de la conférence générale d'avril 1980. Il a dit « Puissions-nous tous nous souvenir que si nous vivons l'Évangile et suivons les conseils des dirigeants de l'Église, nous serons bénis et éviterons beaucoup des problèmes qui affligent le monde. Le Seigneur connaît les difficultés que nous rencontrons. Si nous respectons ses commandements, nous aurons droit à recevoir la sagesse et les bénédictions des cieux pour les résoudre. Mes frères et sœurs, je sais que l'Évangile est vrai. Il répond à toutes les questions de la vie et à tous les problèmes que nous rencontrons. Maintenant, une citation du président Benson s'adressant aux missionnaires. Je vous témoigne que nous avons les réponses aux problèmes du monde. Nous savons où nous allons. Nous avançons et le Seigneur dirige son œuvre par l'intermédiaire d'un prophète de Dieu et de témoins spéciaux qui attestent de la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est le Dieu de ce monde, sous la direction du Père. Nous ne pouvons échouer dans cette œuvre. Avec l'assurance des prophètes de Dieu, il est clair que la route est bien tracée pour que nous puissions mettre en pratique l'Évangile de Jésus-Christ dans notre vie. Frère Christopherson et moi avons décidé de faire notre exposé sous forme de questions-réponses et en utilisant trois questions pour mettre en pratique l'Évangile à travers le service, le sauvetage et le respect des alliances. Bien sûr, je poserai les questions et frère Christopherson y répondra. Ce seront de brèves réponses dans l'espoir que vous irez plus loin et rechercherez plus de connaissances et de compréhension sur ces sujets. Premièrement, le service. Nous appliquons l'Évangile en servant notre semblable, comme le Sauveur l'a fait au cours de son ministère terrestre. Tout d'abord, nous devons comprendre où le monde nous place et qui nous sommes. Voici donc la première question. Les Mormons sont-ils chrétiens ?
Oui. Vous avez dit que les réponses aux défis et aux problèmes de l'existence viennent de l'Évangile et de sa mise en pratique, ce qui signifie suivre les enseignements et les commandements et l'exemple du Christ. Et je pense que c'est dans cette conduite chrétienne et à travers le service que nous présentons notre argument le meilleur et le plus persuasif à propos de notre propre christianisme. Je sais que certains affirment que nous ne rentrons pas dans le cadre de leur définition particulière du christianisme orthodoxe, qu'il en soit ainsi. Mais notre exemple doit être tel que personne ne puisse nier que les saints des derniers jours aiment le Sauveur. Personne ne peut nier que les saints des derniers jours s'efforcent d'imiter le Sauveur. Et je pense que c'est ainsi que nous le manifestons, par nos actions, comme a dit le Sauveur, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il se trouve que je vis dans une paroisse formidable où le service est le cadre et le mode de vie. Un exemple rapide. Amy a 5 enfants et en attend un 6e. Elle a souvent été malade au cours de cette grossesse. Tiffany a probablement plus d'enfants à la maison que quiconque dans la paroisse. Mais Tiffany met un point d'honneur, de temps en temps, à prendre les enfants d'Amy chez elle et à lui donner du temps seul pour qu'elle se repose et puisse récupérer. C'est un simple exemple, mais je pense que si vous le multipliez par des centaines et des milliers de fois, c'est ce qui signifie pour nous être chrétiens.
Bon, je pense que je vais vous donner un A pour cette réponse. Je vous remercie. Question suivante. Quel est l'effet du service dans notre propre vie?
Dans le service, on doit toujours se concentrer sur l'extérieur. on pense à ce qu'on peut faire pour aider les autres. Mais en même temps, on ne peut pas nier que cela a un effet sur nous. Je crois qu'il y a quelque chose dans l'empathie et la compassion qui change notre perspective, qui nous donne de la force et du courage, je pense, pour faire face à nos propres besoins. Cela nous raffine, cela nous sanctifie. Marion Giromney a dit un jour, « Souvenez-vous que le service n'est pas juste quelque chose que l'on fait pour aller aux cieux, mais que le service est le mode de vie des cieux. Vous savez, c'est le mode de vie de Dieu, c'est ce que nous faisons là-bas. » Bien sûr, le Christ lui-même est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et je pense, je l'ai souligné avant de venir, aux paroles d'Amulek. Au chapitre 34 d'Alma, il dit qu'après avoir prié et après avoir fait toutes les choses qui font partie de notre culte et de notre manière de vivre, car lorsque vous avez fait toutes ces choses, si vous renvoyez les nécessiteux et les nus, et ne visitez pas les malades et les affligés, ne donnez pas de vos biens, si vous en avez, à ceux qui sont dans le besoin, je vous le dis, si vous ne faites rien de cela, voici votre prière est vaine, et vous ne sert de rien, et vous êtes comme des hypocrites qui renient la foi. Je pense que le meilleur service que nous puissions rendre se fait au foyer. C'est là qu'il doit être le plus constant et le plus fréquent.
Bon, essayons une troisième question dans cette section. Il se peut que des personnes d'autres confessions partagent nos valeurs. Existe-t-il des moyens de se joindre à eux dans notre service chrétien?
Je pense que c'est tout à fait naturel. Il n'est pas nécessaire d'être d'accord sur tous les points de doctrine pour collaborer et œuvrer ensemble. Ma propre expérience m'a prouvé que je deviens une meilleure personne à travers ce type d'association. J'ai pu travailler à de nombreuses occasions dans les divers lieux où j'ai vécu aux États-Unis et en dehors, avec des groupes de personnes, d'autres confessions, et dans certains cas, je suppose, des personnes n'appartenant à aucun groupement religieux, mais des personnes de bonne volonté. Et comme je l'ai dit, je pense que cela m'a rendu meilleur. Et l'organisation de l'Église est vraiment axée sur le service en groupe. Nos collèges et nos paroisses et toutes les organisations facilitent réellement cela et nous préparent à aller vers les autres et dans certains cas à nous joindre à eux. Mais nous avons eu beaucoup d'expériences de ce type, comme vous le savez, et pas seulement au niveau local, mais internationalement, à travers le monde entier. Nous sommes liés avec les catholiques, les évangélistes et les musulmans, ainsi que des groupes et des personnes laïques. Comme je l'ai déjà dit, je crois que c'est vraiment une conséquence naturelle de notre service chrétien et du fait de suivre le Christ en vivant l'Évangile.
Bon, très bien, allons maintenant à la section sauvetage. Encore une fois, nous appliquons l'Évangile en allant secourir les gens qui sont dans le besoin, tant spirituellement que temporellement, comme le Sauveur nous l'a montré. Première question. En quoi secourir les gens qui sont dans le besoin est-il au centre de nos croyances?
Bien, encore une fois, nous parlons de l'Évangile comme source de solution face aux difficultés de la vie et à nos besoins. Et pour moi, la clé de tout cela est le pouvoir rédempteur de Jésus-Christ. Nous nous appuyons sur sa grâce pour surmonter le péché, pour surmonter la souffrance, pour surmonter la mort elle-même. Et je crois qu'une partie de la mise en pratique de l'Évangile dans nos vies consiste à participer à cette œuvre rédemptrice, son œuvre rédemptrice, à ses côtés. Cela signifie le faire individuellement, en tant que parent, en tant que collège, en tant que paroisse, en tant que pieux, quelle que soit la situation. Notre effort vise à racheter les gens, l'aider à racheter les gens qui sont dans le besoin, aussi bien spirituellement que temporellement. Tout cela fait partie du sauvetage. Et en lisant le manuel d'instruction, on peut voir que le magasin épiscopal en est un exemple. Ce magasin épiscopal est constitué de toute la bonne volonté, des talents, du temps, des ressources, des membres, tout ce qu'ils sont prêts à donner pour aider à cet effort rédempteur. Donc, nous avons parlé de service. Je pense que c'est le point culminant du service. Et je pense que c'est à juste titre que le président Monson nous exhorte à aller de l'avant dans cette œuvre. Vous savez, nous terminons nos réunions du jeudi au temple par le rapport de nos activités de la semaine précédente. Et il semble que sans exception, avec toutes les autres choses qu'il a faites en tant que président de l'Église, il y a toujours quelque chose d'un ministère individuel et d'un effort pour secourir. Il a rendu visite à quelqu'un dans une maison de repos, il a donné une bénédiction, il assiste à des funérailles, il a appelé quelqu'un qu'il savait être seul. Je pense que tout cela est un grand exemple de ce que signifie avoir cela, notre participation à l'œuvre rédemptrice du Seigneur au centre de notre vie.
Bon, essayons de voir quel est le rôle du Collège de la Prêtrise dans cet effort de sauvetage.
Pour moi, les collèges ont un rôle essentiel, un rôle de direction. Bien sûr, les présidents de collège ont les clés. Et ils ont le pouvoir d'édifier avec leurs conseillers une fraternité au sein du collège et d'aller vers les membres et les familles des membres du collège, qu'ils soient pratiquants ou non, et de les fortifier dans l'alliance de l'Évangile. Les aider à comprendre, comment l'Évangile peut être dans leur vie et les aider à surmonter leurs difficultés. Pour moi, secourir, c'est ce que signifie réellement le serment et l'alliance de la prêtrise. Magnifier la prêtrise et les ordonnances qu'accomplit la prêtrise est au cœur de ce sauvetage. Vous avez souvent enseigné le rôle des collèges et des conseils de paroisse dans le sauvetage. Vous voulez dire quelque chose à ce sujet?
J'aime les dirigeants de collèges d'anciens et de groupes de grands prêtres. Ils dirigent les collèges, et ces collèges ont besoin de direction. Trop souvent, nous ne leur accordons pas la place qu'ils méritent dans nos assemblées, pour comprendre le grand rôle de direction qu'ils ont. Et j'espère que nous comprendrons mieux ce qu'ils font, en permettant à l'effort de sauvetage d'aller de l'avant dans le royaume de notre Père Céleste. Et j'espère que la durée de leur appel sera plus longue qu'elle ne l'est actuellement.
Je suis d'accord. Je dirais par ailleurs que ce que font les collèges, c'est réellement équiper les gens pour comprendre l'Évangile et l'appliquer pour surmonter les difficultés de la vie.
Très bien. Voici la dernière question de cette section. Y a-t-il des similitudes entre les efforts de sauvetage dirigés vers les membres non pratiquants et le programme missionnaire pour les non-membres?
Je suis heureux que vous ayez lié les deux, car je pense que c'est une seule et même chose. Dans un cas, l'effort est dirigé vers ceux qui ont eu l'Évangile et nous les ramenons au Sauveur. Et dans l'autre cas, c'est les amener au Christ pour la première fois. Mais en fin de compte, c'est la même œuvre. Et je dirais par ailleurs qu'on ne dit pas vraiment aux gens « Venez et recommencez votre vie à partir de rien ». Dans certains cas peut-être, mais généralement ce que nous disons c'est gardez tout ce que vous avez, tout le bien que vous avez construit au fil des années et qui fait partie de votre vie jusqu'à présent, et nous ajouterons le reste. Nous fournirons l'équilibre que le Sauveur donne à travers son Évangile.
Très bien. Passons à notre dernière section. Respectez les alliances que nous faisons avec Dieu. Votre première question. En quoi les temples et les alliances du temple nous donnent-ils la force de surmonter les difficultés de la vie?
Je dirais que pour surmonter les difficultés, le temple et les ordonnances du temple sont l'application suprême de l'Évangile de Jésus-Christ. Je dis aux gens que l'une des bénédictions du temple et de ses ordonnances est la perspective qu'il nous donne. Lorsque nous allons au temple, nous laissons toutes nos préoccupations, nos problèmes et nos soucis à la porte. Et lorsque nous en ressortons, ils sont toujours là. Il nous faut les ramasser, ils n'ont pas changé, mais ce qui a changé, c'est nous. Et nous avons plus de force spirituelle, plus de capacité, une perspective plus juste de la vie et de son sens. Et peut-être que les gros problèmes ne semblent plus si gros et les plus petits problèmes que nous pensions ne pas être importants, nous ferions mieux nous en occuper avant qu'ils prennent de l'ampleur. Je pense que l'autre chose est qu'il y a un pouvoir divin associé à ces alliances. Dans Doctrine et Alliances, on peut lire qu'à travers les ordonnances de la prêtrise de Melchisédek, Et particulièrement celle du temple, selon moi, le pouvoir de la divinité se manifeste. Et entre autres choses, je pense que cela signifie qu'il y a une influence, un pouvoir divin qui afflue en nous lorsque nous contractons ces alliances et les respectons. C'est donc un lieu où se régénérer. C'est un lieu de révélation. Les temples ne peuvent remplir leur but que si nous nous sommes préparés. Les gens critiquent notre culte au temple, affirmant qu'il est indûment secret. Mais l'accès y est limité, non pour des raisons de secret, mais pour assurer une certaine préparation. Nous devons réellement être préparés et spirituellement mûrs pour contracter ces alliances et ensuite les respecter. Elles sont très sacrées.
Très bien. Quel est le rôle des alliances dans le processus de conversion réelle?
Pour moi, elles sont le chemin qui mène à une vie de disciple. L'essence de toutes ces alliances est l'obéissance, et ce jusqu'au sacrifice et à la consécration, mais en un mot, l'obéissance. Et selon moi, avec le temps, cela nous fait passer de l'homme naturel au saint. Et je ne pense pas qu'il y ait une autre voie, un autre chemin pour y parvenir. Pour moi, cela produit une grande foi qui fait que l'on sait qu'on a une promesse de Dieu, personnellement, individuellement, sans tenir compte des autres. Nous contractons ces alliances individuellement, un à un. J'ai lu il y a quelques années un article dans un journal français qui parlait de notre œuvre pour les morts. Il était écrit que les mormons plongeaient les microfilms dans une bassine d'eau et les ressortaient, et que toutes ces personnes étaient baptisées. Je me suis dit, formidable, pense à tout le temps qu'on aurait pu économiser. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne marche pas comme cela. Parce que ces alliances sont individuelles. Parce que les promesses de Dieu et nos promesses envers lui sont faites de personne à personne, l'un envers l'autre. Pour moi, cela produit la foi. Vous avez sa promesse. Vous savez qu'il ne peut pas mentir. Vous savez qu'il tiendra sa promesse et qu'il nous aide à affronter le quotidien. Quoi qu'il puisse se passer maintenant, nous savons que ce qui viendra à la fin, nous pourrons y faire face.
À présent, la dernière question. Que signifie nous exercer à honorer nos alliances?
Je me souviens qu'un jour, un des frères nous a dit, nous allons au temple pour faire des alliances. Nous rentrons chez nous pour les respecter. Et pour moi, en pratique, le respect des alliances est encore une fois quelque chose que l'on fait premièrement au foyer, dans le mariage et en famille. Mais nous parlons de l'application de l'Évangile dans le sauvetage, le service et l'obéissance. Pour moi, toutes ces choses signifient respecter ces alliances. Et je voudrais mentionner tout particulièrement un repentir continuel qui est facilité par la Sainte Cène. Si nous pouvons nous préparer chaque semaine pour ce que nous devons résoudre ou pour ce dont nous devons nous repentir ou ce que nous devons confesser et gérer durant la semaine avant dimanche et ensuite assister à la réunion de Sainte Cène, prendre les emblèmes de l'expiation du Seigneur béni par le pouvoir de la prêtrise, je pense que nous ne faisons pas que renouveler nos alliances. Nous recevons également la promesse de la rémission de nos péchés et la direction du Saint-Esprit dans notre vie. C'est ça, respecter ces alliances.
Très bien. Pourriez-vous témoigner de tout ce que nous avons dit?
Je vous remercie. L'Évangile a vraiment les réponses. C'est ce dont nous avons parlé. Servir, remplir son ministère, les ordonnances, le respect des alliances. Avec le temps, cela nous transforme. Avec le temps, cela augmente notre capacité d'affronter les problèmes. Cela nous aide réellement à prévenir et à éviter, comme l'a dit président Kimball, je pense que c'était cela, éviter beaucoup de difficultés de la vie et puiser à l'aide divine. Et pour moi, la clé est le don du Saint-Esprit. Nous avons ces bénédictions, cette direction constante et l'aide, la consolation et les dons de l'Esprit pour nous faire traverser la vie, quoi qu'il arrive. C'est notre tuteur dans l'application de l'Évangile, notre guide et notre réconfort. Et mon témoignage est que le Saint-Esprit et son pouvoir sont réels. Que le Seigneur Jésus-Christ et son pouvoir rédempteur sont réels. Et que Dieu notre Père Céleste, qui nous aime, a préparé la voie pour nous grâce à l'Évangile. Il est en fait notre Père et il vit. Je témoigne de tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je joins mon témoignage à celui de frère Christopherson. L'Évangile a été rétabli. C'est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Il la dirige, il nous dirige et nous guide dans l'œuvre dans laquelle nous sommes appelés. Nous sommes dans la dispensation de la plénitude des temps. Il nous a montré le chemin, la vérité et la vie. Je témoigne solennellement qu'il nous dirige et nous guide et qu'il nous donne les réponses à tous les problèmes et à toutes les difficultés de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.